Radio Classique.
Thank you. Retrouvez Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
La France de demain. Ça n'est pas seulement le rendez-vous des entreprises de demain, mais aussi de la société de demain. C'est la raison pour laquelle on reçoit ce matin le directeur de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour Jean-Luc Angelis.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. On va commencer par le constat. Alzheimer, ce sont combien de malades en France?
Alors Alzheimer, c'est 1 200 000 malades en France. Enfin, Alzheimer est maladie apparentée. Donc il y a vraiment 1 million d'Alzheimer pur, entre guillemets. Et 200 000 maladies apparentées qui sont d'autres maladies, type démence à corps de Lévy.
Et le profil, ce sont des personnes plutôt âgées?
Alors, la maladie d'Alzheimer a un profil assez typique. Ce sont des personnes âgées. C'est une maladie qui touche principalement les femmes, puisque les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Et comme c'est une maladie qui est liée à l'âge, évidemment, les femmes sont plus impactées.
À partir de quel âge on considère une personne comme susceptible de pouvoir développer la maladie?
Alors ici, vous avez à partir de 70 ans, 75 ans, on commence à avoir des Alzheimer. Alors 70 ans, c'est jeune. 75 ans, j'ai envie de dire, c'est une espèce de moyenne. Après, comme c'est une maladie qui est personnelle, on traite les personnes au cas par cas.
Voilà. Quels sont les signes avant-coureurs d'une personne?
Alors je pense qu'on les a tous observés dans notre entourage. Il y a beaucoup de Français et puis beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui ont des proches atteints de la maladie d'Alzheimer, et souvent ça se manifeste à bas bruit par une dépression, mais de manière beaucoup plus remarquable par des oublis. C'est ce qu'on voit, des oublis dans la vie quotidienne ou une désorientation par exemple.
Est-ce que les cas ont augmenté ces dernières années avec ce vieillissement de la population ?
Alors, les cas augmentent. Nous avons 225 000 nouveaux cas chaque année Alzheimer. Après, il y a un phénomène de courbe qui se croise. On sait que, par exemple, les études ont tendance à augmenter la réserve cognitive, donc notre mémoire, nos capacités fonctionnelles dans le cerveau. Donc, toutes les femmes qui étaient très impactées après-guerre, parce qu'il n'y avait pas forcément eu beaucoup d'études, donc une réserve cognitive un peu plus déficiente, eh bien, résistent beaucoup mieux. Donc, cette maladie qui touche plus les femmes, en fait, en regardant les générations, on s'apercevrait qu'elle diminue quand même un peu chez les femmes, mais en proportion, comme il y a plus de personnes âgées, évidemment, la population avec la maladie d'Alzheimer augmente.
Et est-ce qu'on peut expliquer ce qui provoque cette maladie, d'où elle vient ?
Alors, aujourd'hui, personne ne connaît la cause de la maladie d'Alzheimer. Si on la connaissait, on pourrait s'attaquer au problème. Mmh. Par contre, on connaît bien les deux protéines qui sont en cause dans cette maladie, et qui sont la protéine bêta-amyloïde, qui a été la première à être identifiée, puis la deuxième protéine qui a été identifiée de manière assez récente, finalement, dans l'histoire de la recherche, en 1985, la protéine tau.
Mais c'est fait pourtant 100 ans que Alois Alzheimer a découvert cette maladie. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir.
Alors oui. Alors d'abord, le cerveau est un organe extrêmement complexe. Nous avons des milliers de protéines en interaction dans notre cerveau tous les jours. Et dès qu'on observe quelque chose, c'est l'infiniment petit. Évidemment, il faut bien comprendre toutes les conséquences autour. Donc, c'est une maladie complexe parce que le cerveau est un organe complexe. À titre de comparaison, le cancer a été découvert à peu près en même moment qu'Alzheimer. Et aujourd'hui, on arrive quand même à avoir fait des progrès fulgurants. Cela est dû principalement aussi aux moyens qu'on a mis dans la recherche. Autrefois, pour la maladie d'Alzheimer, on parlait souvent de démence sénile. Et on disait, il est vieux, il radote ou il se répète. Ça ne paraissait pas finalement autre chose que du vieillissement. Évidemment, on a été un peu plus loin. Aujourd'hui, on sait que c'est une vraie maladie.
On parle beaucoup des malades, mais il y a aussi une source d'angoisse pour les familles, cette prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on sait aujourd'hui en France, est-ce qu'on sait accompagner les aidants ?
Alors aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup d'aidants qui sont impactés par la maladie d'Alzheimer. Et on estime à peu près à 3 millions de personnes qui sont concernées directement, donc qui portent ce souci. Et il y a un coût social en cela. Mmh. Vous êtes moins présent à votre travail, en tout cas en esprit, et vous êtes vraiment préoccupé par votre proche. Les aidants aujourd'hui ont bénéficié de structures d'accueil. Il y a des associations de terrain qui permettent de les accompagner au jour le jour, de les aider à mieux identifier le parcours de prise en charge. Donc il y a des choses qui sont bien faites. Et selon les régions, selon les villes, vous avez plus ou moins de richesses associatives pour pouvoir aller chercher de l'aide.
Alors venons-en à votre fondation, la Fondation Recherche Alzheimer. Quel est votre rôle ?
Alors nous avons un rôle de collecteur. Nous trouvons de l'argent auprès des entreprises comme auprès des particuliers. Et une fois que nous avons réuni des budgets importants, puisque nous sommes le premier bailleur de fonds de la recherche aujourd'hui en France sur la maladie d'Alzheimer, nous affectons ces fonds lors d'appels à projets à des équipes de chercheurs français. Et notre appel à projet a cette grande chance de pouvoir être mené par des chercheurs européens qui sont tous parmi les premiers découvreurs de caractéristiques de la maladie. Donc on a un jury scientifique de très très haute volée qui en fait va sélectionner les meilleurs projets français. Et depuis quelques années que je travaille à cette fondation, nous sommes extrêmement fiers de voir augmenter finalement le niveau des projets, le niveau de la recherche française.
Justement, on peut en parler de cette recherche, puisqu'un traitement vient d'être autorisé en Europe, finalement autorisé. C'est le médicament, vous me corrigez si je me trompe, Leqembi du laboratoire Eisai. C'est une bonne nouvelle ?
Alors, c'est une très bonne nouvelle. Ce médicament a été effectivement autorisé après avoir été refusé il y a presque un mois. C'était le 14 novembre, je dis cela de mémoire. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est un médicament qui va ralentir la progression de la maladie. Donc on a observé entre un groupe de patients malades et puis un groupe placebo un ralentissement de l'ordre de 30% du déclin cognitif. Donc ce médicament va intervenir sur une des deux protéines, qui est la protéine bêta-amyloïde, et va, entre guillemets, nettoyer le cerveau. Donc c'est un espoir parce que dès lors qu'on trouve les premiers traitements, la recherche va pouvoir observer ce qui se passe et va pouvoir imaginer peut-être demain d'autres stratégies médicamenteuses. Donc c'est une excellente nouvelle. C'est un médicament qui sera accessible aux malades en stade précoce, parce qu'il ne faut pas que votre cerveau soit trop abîmé, qu'il y ait trop de lésions. Mais là, déjà, on a une première piste, on a un premier espoir. Ça ne nous permet pas de connaître la cause, mais déjà on peut agir et ralentir la maladie.
Ralentir la maladie. Le refus avait été d'ailleurs motivé par des effets secondaires, des œdèmes, des saignements.
Oui, il y avait ce risque effectivement qui préoccupait beaucoup les autorités de santé.
Et maintenant la discussion va porter sur le remboursement en pleine disette budgétaire. On parle beaucoup de ça forcément en ce moment. Vous pensez que l'assurance maladie va pouvoir le prendre en charge?
Alors moi, à mon niveau, je peux pas m'exprimer là-dessus parce que c'est un peu prématuré. Dans la mesure où il y a des discussions qui doivent avoir lieu, c'est un médicament qui coûte quand même cher. Je crois que de mémoire, le traitement est estimé à 26 000 euros par an par patient, donc ça représente une somme considérable. Même si on prend que les personnes en stade précoce, dûment détectées, là il y a quand même des équipes budgétaires et comme vous le dites, nous sommes dans une période compliquée au niveau du budget de l'État. Et je ne sais pas si c'est la priorité. Vous vous rappelez qu'il y avait eu des déremboursements de médicaments il y a quelques années, qui nous avaient tous fait crier au scandale. Là, on va voir quelle sera la politique adoptée.
Merci Jean-Luc Angelis, le directeur de la Fondation Alzheimer, ce matin dans la France de demain.
La matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
On va parler d'amour dans Comment j'ai réussi. Bonjour Mathieu Jacquier.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le président de Mythique Europe depuis quelques années. La rencontre en ligne, c'est une révolution. Est-ce que c'est encore un petit peu tabou, un peu honteux de dire qu'on s'est rencontré sur un site de rencontre?
Moi, je crois pas. Vous savez, Mythique, ça a bientôt 20 ans. C'est une extraordinaire aventure humaine. On a changé complètement les rapports entre les gens. On a aidé à ça. En 20 ans, il y a à peu près 10 millions de couples qui se sont formés grâce à Mythique. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a plus d'un couple sur deux qui s'est rencontré en ligne. Plus d'un couple sur deux qui se forme. Ça veut dire que c'est un phénomène massif. C'est une révolution sociale. Donc oui, ça concerne tout le monde, à tous les âges. Il y a vraiment quelque chose qui se passe.
Et ces couples l'assument ?
Oui, ils l'assument beaucoup plus. Moi, par exemple, c'est un exemple. Il y a pas très longtemps, j'étais invité à un mariage d'amis. Bah, la mariée, au moment de faire son discours, qu'est-ce qu'elle a remercié ? Elle a remercié Mythique, parce que c'est grâce à Mythique qu'elle et son futur mari sont rencontrés.
Et parce que vous étiez dans la salle, j'en suis sûr.
Peut-être, mais en tout cas, c'est très touchant. Et ça veut dire que les gens l'assument beaucoup, et que effectivement, là, il y a vraiment, c'est le nouveau moyen de se rencontrer.
Et donc, ce marché continue de progresser ?
Oui, ça continue de progresser. Je disais, en 20 ans, on est passé de 0 à 50% des couples qui se rencontrent comme ça. Et ça continue à progresser. Ça continue à progresser particulièrement sur les plus de 50 ans, par exemple. Vous disiez, tabou. C'est vrai que nous, il y a 5 ans, on a lancé une marque, 10 ans demain, Mythique, on a lancé 10 ans demain, pour la rencontre après 50 ans. Parce que quand même, sur certaines cibles, ou à certains âges, on va dire, il y avait comme un tabou. Et disons demain, c'est là pour dire, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux ou pour retomber amoureux.
Alors comment on explique cette évolution si rapide ?
Nous, on a lancé un observatoire cet été, qu'on appelle le Dating Lab, pour essayer de croiser les regards avec des psychologues, des philosophes, des neurobiologistes, etc. Et ce qu'on voit, c'est que sur les 10 dernières années, il y a 4 grandes ruptures qu'on peut recenser. Il y a 2 ruptures qui sont d'ordre technologique de l'outil, c'est-à-dire le portable,
bien sûr,
et les réseaux sociaux. Le portable, ça veut dire beaucoup plus de temps réel. Les réseaux sociaux, ça veut dire beaucoup plus de connexion ou d'hyperconnexion. Mm-hmm. Et puis, il y a 2 ruptures qui sont d'ordre plutôt comportemental, les usages. Il y a évidemment la vague MeToo,
bien sûr,
qui a rééquilibré les rapports entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a le moment du confinement, des confinements, qui fait qu'en sortie de confinement, les célibataires se sont dit « Mais moi, plus jamais seul », on a entendu beaucoup cette phrase-là, « Plus jamais seul, j'ai envie de trouver quelqu'un, de créer une belle histoire, etc. » Donc la somme de tout ça fait qu'effectivement, ça continue à évoluer, bien sûr.
Il y a une évolution également, les grandes enquêtes le montrent. Les jeunes font moins l'amour, parfois avec plus de gens. Comment on explique aussi ce changement de société ?
Moi, je pense qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que il y a plus de rencontres au global. Plus de rencontres sérieuses, entre guillemets, et plus de rencontres un peu moins sérieuses, peut-être. Et après, il faut se méfier de juste cet effet de loupe, on va dire, sur les jeunes générations. Parce que quand je regarde au global, par exemple, on a fait une étude pour 10 ans demain récente, on a 95% des célibataires de 55 ans qui nous disent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, notamment avec le sexe, que quand ils avaient 25 ans. Donc effectivement, il y a quand même une question de moment dans la vie et d'attitude par rapport à la rencontre.
Les applications de rencontres dans l'ensemble, pas seulement Mythique, sont parfois critiquées pour leur algorithme en donnant des notes de désirabilité. J'ai regardé ça. C'est aussi le cas chez vous. Est-ce qu'on est orienté par l'algorithme de Mythique ?
Nous, l'objectif de l'application, c'est de vous aider à découvrir des personnes qui soient les plus adaptées possibles. Donc oui, il y a un algorithme, forcément, parce que on a tellement de millions de gens qui sont sur nos plateformes qu'il faut bien, évidemment, trouver la bonne façon de les faire se découvrir les uns les autres.
Et ça se base sur quoi, alors?
Ça se base sur, fondamentalement, quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, ça se base sur quoi? Ça se base sur des critères objectifs comme l'âge, comme la distance, est-ce que vous habitez loin? Et puis après, ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est les centres d'intérêt, les points communs, tout ce que vous pouvez avoir en commun qui fait que la rencontre, elle peut se passer. C'est bien de vous proposer un profil, il faut qu'il soit le plus adapté possible.
Des critères physiques aussi?
Non. Non, c'est pas ça le sujet. Non, non, le sujet, c'est vraiment réussir à faire en sorte que la rencontre se passe bien et commence, que la conversation s'initie. Donc, ça veut dire que du point commun des centres d'intérêt, c'est ça qui va permettre de briser la glace et c'est ça qui va faire une bonne rencontre.
Il y a aussi pendant très longtemps la mode du speed dating, c'était les rencontres assez rapides. Ça, c'est définitivement terminé?
Ah, pas du tout. Ça revient en force, en fait. Donc peut-être que notre génération à nous, on a connu ça en étant beaucoup plus jeune. Mais aujourd'hui, non, le speed dating, ça revient très fort. Ça revient très fort in real life, on va dire, en personne. Et ça revient très fort aussi en ligne. Nous, Mythic, on organise des live speed dating. Donc, c'est-à-dire que tous les dimanches soirs, on a des dizaines de milliers de célibataires qui se connectent et qu'on fait se rencontrer pour une discussion de 5 minutes, entre guillemets à l'aveugle. Ça veut dire que vous discutez avec quelqu'un, vous n'avez pas vu sa photo, vous allez juste discuter par écrit ou alors un audio. Et puis, si ça se passe bien, au bout de 5 minutes, vous likez, elle vous like, et paf, vous continuez la discussion. Et on organise aussi la même chose dans la vraie vie, à travers nos événements. Et je pense que le speed dating, justement, c'est une forme de rencontre qui est très, très utile et très efficace, parce que ça vous permet, en un temps réduit, de rencontrer vraiment des gens, et de manière authentique et vraiment réelle.
Merci Mathieu Jacquet, le président de Mythic Europe, ce matin, dans Comment j'ai réussi.
La matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
Juste avant le journal de l'économie, Luc Ferry est avec nous. Bonjour Luc.
Bonjour mon ami.
L'esprit des mots ce matin consacré à un mot que les parents ont l'habitude d'utiliser pour décrire la chambre de leurs enfants, c'est un vrai capharnaüm.
Oui. Ça veut dire que c'est mal rangé, hein. Ça veut dire que c'est effroyable. En anglais, on dirait « it's a mess ». Voilà. Capernaum, on disait autrefois. C'était le mot ancien. Voilà. Et donc, en fait, moi, je suis allé dans ce petit village qui s'appelle toujours Capharnaüm. Ça n'a rien d'un...
Tout est bien rangé.
Tout est bien rangé. C'est un petit village très sympathique qui n'a rien d'épouvantable. Voilà. Et en fait, c'est un passage de l'évangile de Marc et dans lequel Marc raconte que le Christ, que Jésus a tellement de succès, la foule se presse pour entendre le message, la foule se presse pour l'écouter, et elle est tellement nombreuse que ça finit, les gens finissent par se rouler les uns sur les autres, et il y a des gens qui amènent à Jésus un paralytique pour que Jésus fasse un miracle, et ils sont obligés de le porter sur le toit d'une maison, parce qu'il y a plus de place par terre, les gens se pressent, donc évidemment c'est ça le Capharnaüm, et donc ils sont obligés de le porter sur le toit d'une maison, et Jésus donc guérit ce malheureux paralytique, et évidemment comme vous pouvez l'imaginer, il y a encore plus de monde qui vient, il y a encore plus de miracles à accomplir, plus de gens qui viennent pour se faire soigner, et donc la ville est transformée en une espèce de mélasse de foule qui vient voir Jésus. Voilà. Et donc comme il ne pouvait l'aborder, je vous lis le passage de Marc, à cause de la foule, découvrirent le toit de la maison où il était, ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et le paralytique est guéri. Alors, bien évidemment, encore une fois, ça va ne faire qu'accroître le Capharnaüm, qu'accroître la foule. Et donc, j'espère que ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont bientôt constituer un nouveau Capharnaüm.
Et comme ça, c'est plus clair. Merci, Luc Ferry, dans l'esprit des mots tous les matins.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour François Vidal.
Bonjour David.
Le fantasque économiste libertarien Javier Milei est président de l'Argentine depuis un an. Maintenant, quel bilan peut-on tirer de son action?
Alors sur la forme, il est à la hauteur des attentes. Hein. Lui qui avait fait campagne une tronçonneuse à la main continue de donner dans l'outrance, méritant plus que jamais son surnom de Trump sud-américain. Mais la vraie surprise, c'est que sur le fond aussi, son action, qui s'apparente à celle menée par Margaret Thatcher au début des années 80, 2020 porte ses fruits. Depuis son arrivée au pouvoir, l'inflation mensuelle a été divisée par 10, la situation des finances publiques assainie et une partie des capitaux qui avaient fui l'Argentine ces dernières années y est revenue. Bref, il a ranimé une économie moribonde. Sa recette, une dévaluation de 50% du peso, la réduction des dépenses publiques de près d'un tiers, une amnistie fiscale et une dérégulation XXL. Cette potion libérale très amère a fait basculer des millions d'Argentins dans la pauvreté, mais devrait permettre au pays de renouer avec la croissance dès l'année prochaine.
De quoi justifier que cette politique de Javier Milei soit érigée en exemple par certains?
Son ami Elon Musk ne s'en prive pas, en tout cas, lui qui aura pour mission de tailler dans les dépenses fédérales au sein de la prochaine administration Trump. Mais il est sans doute beaucoup trop tôt pour trancher cette question. Il faudra pour cela que l'embellie se confirme et que les investisseurs étrangers reviennent dans le pays, ce qui n'arrivera pas tant que le contrôle des changes sera maintenu. Et le paradoxe, David, c'est que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, promesse d'un dollar fort, pourrait desservir son clone sud-américain. Mais pour autant, le volontarisme de Javier Milei a déjà montré une chose, c'est que volonté réformatrice et rigueur budgétaire dans un pays surendetté n'est pas synonyme d'impopularité. En novembre, 56% des Argentins soutenaient son action, de quoi donner à réfléchir du côté de Paris et ailleurs sur les vertus du courage politique.
Et pas de la tronçonneuse quand même. François Vidal pour l'éditorial avec Les Échos. Les Échos qui titrent ce matin « L'Europe décroche face à Wall Street ».
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Les voix de l'économie, votre invité Charles, c'est le fondateur de l'agence BETC, le publicitaire Rémi Babinet qui publie Pas de publicité, merci.
Bonjour Rémi Babinet.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes selon Forbes l'un des 10 meilleurs publicitaires de tous les temps. On vous doit notamment la publicité des bébés Evian. Comment on explique que cette publicité-là, par exemple, soit restée dans les mémoires?
Je pense que la publicité, c'est à la fois très simple et très compliqué, mais c'est de l'émotion et c'est de la raison. Donc c'est un mélange d'analyse de voilà de l'histoire d'Evian. Pourquoi on aime cette marque? Parce que on avait l'eau d'Evian dans nos bibons quand on était petit. Et on n'a pas envie non plus qu'on nous raconte des choses trop rationnelles sur l'eau, etc. On a envie d'émotion. Et donc on croise les deux et ça marche.
Il y a donc une recette, un mécanisme pour avoir une bonne pub?
Non, parce que, enfin, moi, je considère que à chaque fois j'ai un problème différent et j'ai pas de solution toute faite. C'est le charme des agences, c'est l'intérêt de ces endroits où on se confronte et on essaye de trouver une réponse à chaque problème donné.
Dans votre livre, Pas de publicité, merci, hein, c'est aux éditions JBE Books, c'est un pavé, hein, plus de 1200 pages. Vous retracez l'histoire de la publicité, de votre agence BETC. On entend souvent qu'elle était mieux avant la publicité. Pourquoi il y a ce sentiment-là?
Moi, je suis pas trop d'accord parce que j'ai jamais été dans cette énergie-là. Je dis pas que c'est de plus en plus facile, c'est même un peu plus compliqué chaque jour, mais c'est pas parce que c'est plus compliqué, parce que les formats changent, les technologies changent, que c'était mieux avant. L'intérêt de ces changements technologiques, de l'accélération des data, de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va bosser avec de nouveaux outils, mais en même temps, on a fait ça depuis le début de la publicité.
La publicité est toujours donc un reflet de son époque?
C'est un reflet, voire un agent. C'est beaucoup de choses. En tout cas, c'est une activité qui est au centre du commerce et de l'art. Et ça fait des agences de publicité un endroit extraordinaire. Art et commerce, c'est... commerce... On est là pour porter la voix de grands commerçants, de grandes industries, voire d'associations. Il y a plein de d'institutions qui ont besoin de faire de la publicité. Et pour ça, on fait appel à des photographes, des réalisateurs, etc., etc. Et donc, on est vraiment à un carrefour. Donc, la société, on en parle tous les jours et on la fait un peu tous les jours.
Et vous dites dans votre livre qu'un annonceur doit construire son image sur un détail fort. Est-ce que parfois les annonceurs sont un peu frileux à utiliser un détail?
On est tous frileux à cette idée-là parce que on s'estime très complexe et très intéressant parce que complexe. Mais la publicité, c'est un petit peu brutal. Effectivement, il faut trouver un détail. Je donnerai un exemple, un parallèle. Quand on parle de Paris, quand on veut aller vite, on parle de la Tour Eiffel. Ça ne résume pas Paris.
Et c'était une pub RATP.
Mais ça va très vite. Oui, C'est ce qu'on avait fait pour la RATP, ouais. Mais c'est intéressant, hein, cette notion de détail. Il faut trouver le bon et ensuite on construit tout derrière.
Et certaines affiches, y compris pour des voyages, on le voit dans le métro, ou je pense au film Coca-Cola qui a été réalisé entièrement en intelligence artificielle. Est-ce que cela veut dire que le métier de créatif, de publicitaire est en train de mourir?
Pas du tout. Moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Au contraire, ça m'amuse. Sachant que voilà, elle se développe à toute vitesse et que ce sont des machines, c'est tout. Il y a le mot intelligence dedans, ça trompe un peu tout le monde, mais c'est des machines très sophistiquées. Mais en même temps, on s'est habitué à avoir des machines de plus en plus sophistiquées. Moi, je pense qu'on peut faire de l'IA une assistance extraordinaire, que ça soit en création ou en mathématiques ou en plein de domaines. Mais c'est juste un degré supérieur de l'assistanat.
Le marché a beaucoup évolué ces dernières années avec une part grandissante du numérique. Le marché a même été morcelé. Plus d'espace disponible forcément sur Internet. Est-ce que cela veut dire que à l'avenir, il y aura plus de bannières, plus d'affiches sur les sites Internet et un petit peu moins de grands films à la télévision?
Ça, c'est vrai parce que quand on voit... le marché de la pub, il est très en forme, hein.
Il continue de progresser.
Il continue de progresser mondialement, en France... Donc, la part du digital ou de tous ces nouveaux médias digitaux, elle augmente à chaque fois. Et la croissance est beaucoup plus forte sur cette partie-là. Ça ne veut pas dire que les médias traditionnels ne croissent pas, ils croissent moins vite, mais ils croissent. On dit croissent ?
Ils croient ?
Ils croient.
Ils croissent ? Hein ?
Ah, oui. Je crois. Mais en tout cas, non, il y a une croissance extraordinaire de tous ces nouveaux médias dus à l'accélération des technologies.
Dans cette bataille des grosses agences qui existent, l'américain Omnicom, qui possède en France DDB ou TBW ou encore Romance, veut racheter IPG, qui est le propriétaire de McCann. Il y a aussi, comme dans d'autres secteurs de l'économie, un regroupement des grosses agences à l'échelle internationale. Sachant que vous faites partie du groupe Havas, vous-même.
Tout à fait. Je crois que c'est toujours intéressant dans des périodes de mutations technologiques énormes comme celles qu'on traverse, d'avoir des regroupements qui sont des synergies, qui créent des synergies entre les métiers. Donc, je comprends hein, ces grands regroupements. Après, il faut voir comment ça se danse dans la réalité. Mais je comprends la logique de loin, disons.
Mais à quoi servent ces synergies?
À mon avis, c'est des gains de productivité. C'est des activités qui sont mieux articulées mondialement. Sachant que je trouve, personnellement, c'est ce que je raconte un peu dans mon livre, c'est que actuellement, on est fasciné par ces accélérations technologiques. Data, techno, IA... on l'est moins, et du coup, les clients sont très attentifs à ça. On l'est moins sur la fabrication des messages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit aux gens, comment on leur dit, moi c'est mon truc, plus que le nombre de fois où on va les toucher, est-ce qu'on va leur vendre du dentifrice quand ils se lavent les dents, etc., etc.
Et alors certaines marques parfois prennent des positions qui peuvent être politiques ou qui vont rebondir sur l'actualité, c'est vous qui les conseillez de le faire?
Vous parlez de quoi exactement?
Une position politique. Parfois, certaines entreprises, il y a eu aux États-Unis, qui ont pris position dans la campagne présidentielle ou qui vont rebondir sur une partie de l'actualité.
En fait, les marques sont opportunistes, donc elles sont un peu politiques dans le sens où l'évolution de la société est tellement rapide aussi elle-même qu'elles peuvent épouser tel ou tel courant. Il y a des marques qu'on a dit « woke » entre guillemets et d'autres qu'on a dit « conservatrices ». Donc elles sentent que elles ont un fonds de commerce et qu'il faut savoir leur parler. Donc il y a des positionnements comme ça des marques dans la société.
Merci Rémi Babinet, le cofondateur de l'agence BETC. Je rappelle votre livre « Pas de publicité ». Merci, c'est aux éditions JBE Books.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Christian Macarian.
Bonjour David.
En Syrie, après la chute de Bachar al-Assad, les regards se tournent vers la Turquie, qui apparaît comme le principal gagnant de la révolution en cours. Que cherche vraiment Ankara et quels sont ses relais?
Bien sûr, il y a cette nostalgie nationaliste de restauration de l'hégémonie ottomane dans le nord syrien et irakien. Mais principalement, l'implication de l'armée turque en Syrie vise depuis 2011 à lutter contre les forces kurdes des YPG, les unités de protection du peuple kurde, présentes dans le nord-est du pays. La Turquie voit dans ces unités kurdes une menace près de sa frontière sud et un prolongement en territoire syrien du combat mené par les Kurdes de Turquie contre le pouvoir central d'Ankara. Pour combattre les forces turques des YPG, les Turcs ont recouru à l'entremise de l'armée nationale syrienne, l'ANS. L'ANS, c'est la formation rebelle qui ne poursuit pas d'objectifs spécifiquement djihadistes dans son combat contre Bachar el-Assad, à la différence de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui est entré dans Damas et qui est ouvertement djihadiste. L'ANS regroupe entre 50 000 et 100 000 combattants officiellement sous l'autorité d'un gouvernement intermédiaire syrien qui siège à Gaziantep, en Anatolie turque. Par ailleurs, l'ANS est aussi soutenue par le Qatar.
Alors, la Turquie n'a-t-elle pas aussi un deuxième objectif ?
Tout à fait. Ankara a également cherché à établir une zone de sécurité sur le territoire syrien d'une trentaine de kilomètres de largeur tout au long de la frontière afin d'organiser le retour des réfugiés syriens dans leur pays d'origine. Depuis 2011, la Turquie a en effet accueilli plus de 3 millions de réfugiés syriens sur son sol, ce qui pose en mains endroits des problèmes de cohabitation, de sécurité et d'ordre public. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, subit une pression assez forte de la part de son électorat pour soulager la Turquie de ce fardeau. C'est pourquoi Erdogan a tenté à plusieurs reprises de convaincre Bachar el-Assad d'entamer des pourparlers pour le rapatriement partiel des réfugiés. Mais le dictateur syrien, qui avait tout à redouter d'un retour des réfugiés, est resté complètement sourd à ses appels. La chute de Bachar el-Assad vient rebattre toutes les cartes. Erdogan s'érige en acteur de premier plan en Syrie, quel que soit le sort du pays.
Alors à quoi s'attendre ?
Sans surprise, la Turquie se défend officiellement d'avoir la moindre implication dans l'offensive en cours. Sauf que certains indices prouvent que HTS, Hayat Tahrir al-Sham, a obtenu l'appui de la Turquie, notamment sous la forme de drones. De même, des fuites font état de renseignements et de préparatifs assurés par l'armée turque en préalable à la prise d'Alep et afin de la faciliter. Du reste, le président Erdogan ne mâche pas ses mots en estimant fièrement que la Turquie est du bon côté de l'histoire, fermez les guillemets. Il est possible, en revanche, qu'Ankara n'ait pas prévu que les avancées de l'ANS ou de HTS aient été aussi rapides et déterminantes au point de chasser Bachar el-Assad sans qu'il livre bataille. Quoi qu'il en soit, voici Erdogan en position de force, à point nommé pour ouvrir un nouveau chapitre de relations avec son grand ami Donald Trump.
Christian Macarian, l'écho du monde à retrouver en podcast sur l'application Radio Classique. À demain, Christian.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Marc Bourreau, bonjour Marc.
Bonjour David, bonjour à tous.
Alors en Roumanie, c'est l'impasse politique. L'extrême droite conteste l'invalidation du premier tour de la présidentielle. Le candidat pro-russe était arrivé en tête sur fond de soupçons d'ingérence du Kremlin. C'est l'occasion de prendre du recul ce matin et de parler de ce pays, la Roumanie, à qui nous, Français, nous devons finalement beaucoup.
Et oui, si la Roumanie, David, c'est un peuple que le général de Gaulle saluait en version originale. Et si Georges Marchais y partait en vacances avant d'ouvrir les yeux sur le régime Ceausescu après sa chute et après tout le monde.
Un régime aussi abominable que celui que nous découvrons aujourd'hui, non, nous ne le savions pas.
Nous ne savions pas, la Roumanie, c'est aussi une autre lecture qui nous est familière. Et oui, nous n'aurions jamais connu ce thème fameux qu'un jeune violoniste avait consigné consciencieusement dans son cahier d'élève à Bucarest.
Quand j'ai eu 11 ans, j'ai rencontré un grand professeur qui m'a dit « Écoute, Marc, toutes les idées qui viennent dans la tête, il y a une fraîcheur dedans, il y a quelque chose que tu ne retrouveras pas forcément plus tard, si on feuillette dedans, je peux vous dire, ça c'est les premières trois notes du Rabbi Jacob. Aujourd'hui, je pourrais pas faire ces trois notes-là.
Et je parle évidemment de Vladimir Kosma, des centaines de bandes originales de films depuis son arrivée en France à l'adolescence, des inspirations venues des Carpates et de ses salles de cinéma.
Je me rappelle qu'un jour, il y a un film qui s'appelle La Belle Américaine. Je suis allé voir, je sais pas, 10 ou 15 fois ce film pour voir uniquement De Funès, pas pour voir tout le reste du film. Imaginez un jour que je vais travailler avec lui chez moi à la maison autour d'un piano. C'était une sorte de rêve aussi, incroyable.
Je suis un petit garçon de bonne figure qui aime bien les bonbons.
Alors vous entendez là la gymnaste olympique Nadia Comăneci et sa comptine. La Roumanie et la France, c'est une affaire linguistique aussi, qui remonte au début du XXe siècle, période où les écrivains délaissent le roumain pour le français, où Bucarest était surnommé le Petit Paris. Si Nadia Comăneci a fini par poser ses valises aux États-Unis, d'autres sportifs ont choisi la France pour fuir les persécutions, la dictature. Roxana Maracineanu, la championne de natation française, le rappelait lorsqu'elle décrochait en 2018 le portefeuille de ministre des Sports.
Il n'y a pas plus belle manière de rendre à la France ce qu'elle m'a donné depuis mon arrivée en 1984 à l'âge de 9 ans de Roumanie. Mes parents avaient alors l'âge que j'ai aujourd'hui. Ils ne parlaient pas un mot de français et ne connaissaient personne ici. Merci à eux d'avoir permis à mon frère et moi de vivre nos vies de manière libre.
Monsieur Kovács, avez-vous fait bon voyage?
Oui.
Pouvez-vous nous dire bonjour en roumain et traduire en français après?
Oui, bonjour, Ziva. C'est bon, joueur, Romain.
France, Roumanie et le sport. N'oubliez pas non plus que l'équipe de France de football a été entraînée par un crack du ballon rond, le Roumain Stéphane Kovács, sélectionneur des Bleus de 73 à 75.
Je suis content que je reste pour travailler, mais pas penser, je reste toujours dans mon pays. Et je suis très content que le gouvernement français, encore une fois, approuve l'amitié qui nous lie, la Roumanie avec la France.
France, Roumanie, c'est aussi de la terre battue. David, vous entendez la victoire d'une légende du tennis roumain à Roland-Garros, Ilie Năstase, vainqueur en 73 dans une ambiance survoltée qui plaisait tant à l'ancien numéro 1 mondial.
Je crois que le public doit participer, il doit crier, il doit manifester ses sentiments. Le tennis, déjà, c'est très ennuyeux comme sport. Et si on participe pas, c'est pas bien, il faut avoir de l'atmosphère.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, je m'éclate.
Ilie Năstase, et toujours cet accent.
Et toujours cet humour.
Et cet humour. Sur quoi aurions-nous dansé en 73, David? Si Pierre Vassiliou n'était pas là, qu'est-ce que qui nous aurait stimulé si Brancusi n'avait pas sculpté sa muse endormie? Si Tristan Tzara n'avait pas participé à la fondation du mouvement Dada? Que dire aussi de Cioran, pour qui il faut se méfier des penseurs dont l'esprit ne fonctionne qu'à partir d'une citation? Que dire enfin de ce poète et dramaturge?
Ça fait pas mal de temps que je suis né. Ça fait à la fois très longtemps et ça fait très peu de temps. Je ne suis pas encore arrivé à comprendre ce qui m'est arrivé.
Et vous l'avez peut-être reconnu, ce lecteur confortablement installé dans son fauteuil, Eugène Ionesco.
Ionesco veut dire fils de Jean. Ce nom est très répandu en Roumanie. Ionesco, c'est Martin Dupont-Durand.
Eugène Ionesco, arrivé en France à l'âge de 26 ans avec ses poèmes, ses écrits et ses pièces de théâtre.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans la cantatrice Chou?
Absolument rien.
Génie de ce que l'on appelle le théâtre de l'absurde, si cher à Raymond Queneau, Louis Malle, Michel Bouquet, et qui en période trouble, David, offre toujours matière à réflexion.
Je me demande si le monde est vraiment absurde. Je ne crois pas qu'il le soit. Je crois que nous ne le comprenons pas. Je crois que nous sommes ignorants. Que nous sommes voués à l'être. On n'accepte pas d'être un grain de sable et on n'accepte pas d'être un enfant qui regarde le soleil et qui se laisse faire.
Je me laisse bercer par la musique de Vladimir Kosma. Ah, à un moment donné, je l'ai confondu avec Satie, la précédente.
Mais ça ressemble beaucoup, hein, c'est vrai.
C'était la bande originale de Diva. Marc Bourreau, on vous retrouve demain pour le journal imprévisible à suivre le décryptage de David Barou, qui nous parle des concessionnaires auto qui gèrent la crise mieux que prévu.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour David.
Les concessionnaires automobiles étaient très inquiets il y a quelques années. Aujourd'hui, ils retrouvent un peu le moral et pourtant c'est la crise.
Oui, alors c'est vrai, le marché automobile reste difficile. Ça manque un peu de clients en ce moment dans les concessions. Donc sur le plan conjoncturel, vous avez raison, les concessionnaires ont de quoi être encore inquiets. Mais L'évolution, c'est que sur le plan structurel, ils reprennent par contre un peu confiance. Depuis quelques années, la crainte des vendeurs de voitures, c'était que comme dans plein d'autres activités commerciales, le business se déplace sur Internet. Tesla, qui ne vend que des voitures par le biais du e-commerce, avait ouvert la voie. Et les concessionnaires s'inquiétaient car de nombreuses autres marques voulaient, pour faire moderne et sans doute aussi pour faire des économies et mieux maîtriser leur politique tarifaire à l'échelle nationale, passer de plus en plus par le commerce en ligne. Certains pensaient même, comme Stellantis, que dès 2030, un tiers des ventes ne se ferait plus dans les boutiques physiques, et Volvo, des plus agressifs en domaine, pensait même convertir 50% de ses ventes globales dès 2025, puis 100% en 2030.
Et finalement, la catastrophe redoutée, c'est-à-dire ce transfert de l'activité commerciale vers Internet, n'est pas arrivé.
Non, pas du tout. Tesla continue, c'est sûr, de vendre des voitures via Internet, mais chez tous les autres, le commerce en ligne reste très marginal. Les constructeurs chinois comme BYD, qui pensaient à un moment qu'ils pourraient conquérir l'Europe en passant par les canaux de vente numériques, ont fini par le reconnaître. Dans l'automobile, la vente par Internet, c'est plus l'exception que la règle.
Bah oui, on a quand même envie de se mettre au volant avant de dépenser des fortunes. Alors, quelles leçons tirer de cette revanche des concessionnaires?
Vous avez un peu dit, la première leçon, c'est qu'il faut se méfier des modes. Ce n'est pas parce que le e-commerce fonctionnait pour Tesla que cela pouvait fonctionner à haute dose pour tout le monde. La deuxième, c'est que dans le commerce, comme dans plein d'activités, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut répartir les risques. La dernière, c'est que le commerce en ligne ne peut pas fonctionner pour tous les biens. Sur un produit pas cher du tout ou périssable, le canal numérique ne fonctionne pas. La livraison est trop lente et trop coûteuse. Et pour les articles les plus chers, ceux qu'on n'achète que quelques fois dans sa vie, un bien immobilier, une voiture, on a besoin de voir, de toucher, d'être rassuré. Le numérique est un bon canal d'information pour préparer la vente, mais pas forcément pour conclure cette vente. Les constructeurs automobiles l'ont compris, et c'est pour cela que les concessionnaires reprennent un peu confiance aujourd'hui, car ils savent qu'on va avoir besoin d'eux pour vendre et pour entretenir les voitures pendant encore au moins quelques années.
Les voitures, c'est comme les matelas, en fait, on a besoin d'essayer.
Ça doit être ça.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Guillaume Tabar.
Bonjour David.
À 8h11, c'est l'heure de votre éditorial. Emmanuel Macron réunit cet après-midi les partis politiques hors LFI, hors RN, pour sceller un pacte de non-agression, vous l'avez écrit entre guillemets. Le chef de l'État a-t-il enfin trouvé la solution pour sortir de l'impasse après la censure?
La solution, il ne l'a pas. Et cette réunion, si tous les partis conviés viennent, c'est-à-dire du PC à LR, n'a pas pour objet de trouver un accord de gouvernement, mais de voir s'ils peuvent trouver une méthode en vue d'une solution. C'est dire si, au mieux, on n'est qu'au début d'un processus dont on voit mal, s'il était sérieusement mené, comment il ne prendrait pas plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors après tout, pourquoi pas Quand une situation semble bloquée, il faut parfois prendre le temps de dénouer les nœuds un par un. Mais d'une part, c'est quand même pas nous, c'est l'Élysée, c'est l'entourage d'Emmanuel Macron qui nous avait promis, garanti, juré que cette fois, ça irait très vite. À peine renversé, Michel Barnier serait aussitôt remplacé. La relance de consultation ressemble donc à un constat non avoué d'échec pour trouver la bonne personne pour Matignon. Et puis l'invitation au parti dit de l'arc républicain à se parler, à chercher ensemble une voie de passage, c'est exactement ce que le chef de l'État leur avait déjà demandé dans une lettre le 10 juillet dernier, 2 jours après la démission de Gabriel Attal, avec le succès que l'on sait. Tout cela a donc un côté déjà vu, qui trahit le fait qu'à court d'idées, Emmanuel Macron cherche à gagner du temps.
Alors les lignes ne sont-elles pas malgré tout en train de bouger avec les socialistes, les écologistes, les communistes qui ont accepté malgré tout de venir discuter à l'Élysée?
On pourrait le penser, c'est vrai que les positions sont un peu moins figées qu'en été. Dans une partie de la gauche, ce n'est plus le tout ou rien. À l'air, il n'y a plus non plus de veto absolu à discuter un peu au-delà du socle commun actuel. On sent que personne ne va être celui qui portera la responsabilité d'un blocage radical. Mais regardons de plus près. LFI n'est pas invité, mais les écologistes sont prévenus dès leur sortie de l'Élysée qu'il était hors des questions de laisser de côté une composante du nouveau Front Populaire, donc LFI, qu'il était tout aussi hors de question de soutenir un gouvernement macroniste ou de droite, et qu'il était tout autant hors de question d'attendre pour abroger la réforme des retraites. Vous le voyez, ça limite quand même le champ des possibles.
Alors Emmanuel Macron peut-il accepter de sortir